Bon matin, on est toujours dans notre série sur l'Évangile de Jean, une longue série où on prend chacun des chapitres et on regarde ce que la Bible nous expose à propos de Jésus. Et cette semaine, on est au chapitre 11, le chapitre 11 qui est un chapitre vraiment, une plaque tournante dans l'Évangile de Jean où il y a vraiment un avant et un après. Et ce chapitre-là est fantastique parce que c'est un peu comme si c'était une pièce de théâtre pratiquement. Il y a tout là-dedans, il y a des détails, il y a du rythme, il y a des rebondissements. Et ce chapitre-là est unique, c'est un peu comme une chronique à même la Bible. Fait que c'est l'histoire de trois amis qui connaissent très bien Jésus. Ils sont aussi l'ami de Jésus. Il y a Marthe, Marie, Lazare, qui sont des grands amis de Jésus, et Lazare est malade. On appelle Jésus, qui est à peu près à une journée de marche du village de Béthanie où reste la famille. Et Jésus attend. Jésus apprend la nouvelle et il attend. On est un peu surpris de lire ça. Finalement, annonce à ses disciples que son ami Lazare est mort. Et décide quand même d'aller au village à Béthanie. C'est, comme je disais, une journée de marche. Mais le problème, c'est que là où le village est, ben, la vie de Jésus est en danger, mais il décide quand même d'y aller. Et arrivé là-bas, on voit tout le désespoir humain face à la mort. C'est vraiment profond, puissant. On voit la foi des deux sœurs qui sont là, et on va l'entendre tout à l'heure dans la lecture. Et Jésus aussi qui explose dans ses émotions. On voit même Jésus pleurer dans ce chapitre-là. Dieu, devant la grande noirceur de la mort, a des émotions profondes. Il est ému, il est troublé. Et tout à coup, le mot « Lazare sort » et le miracle a lieu. Jésus expose toute la grandeur de sa gloire. Et tout le monde voit ce miracle-là, incroyable pour plusieurs. Puis les réactions qui sont mitigées. Certains croient, certains ne croient pas. Ce matin, je vous offre de survoler ce chapitre-là comme si c'était trois actes d'une pièce de théâtre et avec un épilogue où on va arriver quelque part. Et je dirais, tout le long de l'exposé, je te dirais que garde ça en tête. Comment toi, tu peux être le miracle de Dieu dans ta vie? Si je pouvais résumer ça, je dirais, je vous invite à découvrir Jésus quand il prend un miracle en main, parce que rien ne peut résister à lui, même la mort. On va prier, et Julie va nous lire le passage de ce matin. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, on est devant toi, humble, et on sait que c'est toi qui es la source de tous les miracles. C'est toi qui es la puissance, c'est toi qui es Jésus, la vie, la résurrection. On te prie ce matin de parler à notre cœur, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire à chacun de nous. Que quand on va terminer cette célébration-là, notre cœur soit réellement aligné sur toi. Et je te prie tout ça dans le nom précieux de Jésus. Ton nom, ton puissant nom. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Jean, chapitre 11, les versets 20 à 34 dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jean, chapitre 11, versets 20 à 34. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans sa maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là, où est Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. »
Quand Jésus fait un miracle, c'est jamais au hasard, c'est pas un accident. Jésus prépare son terrain d'une façon souvent surprenante. Et les versets 1 à 16 nous parlent de la préparation. C'est le premier acte de cette belle histoire-là. Il nous expose des pistes pour que nous-mêmes, on puisse vivre ce miracle-là, le miracle de Jésus. La première chose qu'on constate au verset 4, c'est, bon, Dieu œuvre et agit constamment. C'est une réalité. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est une machine, on pourrait dire. Verset 4, il dit, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est intéressant de voir que Jésus n'est pas surpris et il n'est pas dépassé par les événements. Il n'est pas pris de court par la maladie de Lazare. Son affirmation même est bouleversante en disant que même sa maladie a un sens, c'est-à-dire elle est pour la gloire de Dieu. Il y a un sens même à sa maladie. C'est pas parce qu'on ne voit pas Jésus que Jésus est absent. Et souvent, on se laisse impressionner par ce qu'on voit, mais en fait, Jésus est conscient de tout ce qui se passait dans la vie de Lazare déjà. Et on peut dire la même chose aujourd'hui avec toi. Dieu est conscient de tes misères, de tes joies, de tes peines, de ta réalité, de ce que tu es. Parce que Jésus est Dieu et il le sait. C'est tellement réconfortant de savoir que Jésus est au courant, que Jésus sait déjà que tout ce qui arrive va finalement l'être pour sa gloire. Jésus œuvre et agit constamment. Son agenda n'est vraiment pas le même que le nôtre. Le verset 5 est intéressant aussi en disant Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On prend la peine de dire que Jésus les aimait. Donc, la réaction de ça, le verset suivant, c'est ben, « il attend ». Il attend encore 2 jours. Nous, on dirait, ben, notre réaction aurait été, « Ah oui, OK, il est malade, on prend l'avion, on part en courant, on s'en va le rejoindre, on va aller voir ce qui se passe dans la famille. Il faut être là, il faut être là. » Mais ce qu'on voit ici, c'est parce que Jésus les aimait, Jésus a attendu encore 2 jours. Et ça, c'est hors de notre façon de concevoir l'agenda ou même les réactions, mais la façon dont Dieu gère le temps n'a rien à voir avec la façon dont nous, on gère le temps. Nous, on est limités, là. On gère notre agenda en fonction de nos capacités. On se donne des rendez-vous. Finalement, on regarde nos ressources. Puis ultimement, on a un deadline, tout le monde, qui s'appelle la mort. Mais pour Jésus, la perspective de Dieu, elle, est éternelle. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est sûr que l'agenda de Dieu est très différent de notre agenda à nous. Il n'y a même pas de question d'épaisseur, là. Il est plus épais que le mien ou pas. Là. Non, non. Ses ressources sont illimitées. Quand Jésus veut faire quelque chose, il n'est pas en train de dire, OK, on va essayer de patcher les choses ou on va essayer de prendre des petits morceaux d'un, des petits morceaux de l'autre. Jésus crée les événements, Jésus crée les choses. Jésus va simplement aucune limite à tout ce qu'il peut faire. Parce que Jésus nous aime, Jésus attend toujours le bon moment pour que sa gloire se manifeste. Et ça, c'est encore un principe important pour qu'on puisse saisir le miracle qui est en train de se préparer là. Notre perception des choses est souvent fondée sur nos sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le goût, le toucher. On connaît des choses, on apprend des choses, on fait des interprétations de ce qui se passe, et puis là, on tire des conclusions. Des fois, on fait des projections en fonction des expériences qu'on a eues. Puis là, bon, on essaie de se mettre à la place des autres pour essayer de comprendre comment les gens réagiraient. Jésus, il travaille d'une autre façon. Il va souvent contre toute apparence. Là, on voit Jésus est malade. Et là, Jésus dit à ses disciples, après ces paroles, il leur dit au verset 11, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. » Bon, mais les disciples disent, s'il dort, pas de problème. Nous, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Jésus est déjà au courant qu'en fait, au verset 14, il leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et en plus, là où est Lazare présentement, c'est une terre hostile où Jésus est en danger, on veut sa mort. Et Jésus, malgré toute attente, contre toute apparence, décide d'y aller parce que sa mission, c'est d'être la lumière du monde. Les hommes ne peuvent pas lui faire subir rien d'autre que ce que Dieu a décidé. Principe important ici, là. Pour nous, c'est exactement la même chose. Voir la gloire de Dieu à travers notre vie peut des fois être risqué, mais on doit avoir à l'esprit que Dieu, lui, est plus grand que les hommes. Et Jésus, ici, veut donner une leçon à ses disciples, puis aussi à nous, là, qui lisons ce récit-là. Au verset 15, on le voit, il dit, « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais j'ai fait exprès pour ne pas être là. « À cause de vous, je me réjouis que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui. À travers chaque événement qu'on vit, Jésus veut nous forger de plus en plus à son image, afin que vous croyiez. Je me réjouis que je n'étais pas là. Dieu, au fond de fond, veut simplement qu'on reflète sa gloire. C'est le but ultime. C'est la trame de fond à travers tout ce récit-là. Peu importe ce qu'on fait, on doit toujours voir ça avec la perspective du reflet de la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'on fait. Là, présentement, on est dans un gros projet de réno ici. Là. Jésus ne construit pas des édifices, Jésus construit son Église. Fait qu'à travers tout ce projet-là, il veut utiliser tous les événements qui se passent pour que, finalement, quand tout va être terminé, personnellement, si les gens disent « Wow, quelle belle salle », je vais dire « On va avoir raté quelque chose ». Si les gens disent « Wow, c'est une église en feu qui a grandi à travers ces événements-là et qui maintenant reflète la gloire de Dieu. » Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, on voit vraiment la trame de fond, un peu comme avec ce miracle-là. C'est Thomas qui a raison dans sa déclaration quand il dit au verset 16, Thomas, appelé Didyme, qui veut dire le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Parce que, si tu veux voir la gloire de Dieu se refléter dans ta vie, ben il faut que quelqu'un meure. C'est toi ou c'est lui. C'est le premier acte de ce récit. Il y a une préparation. Celui qui est avec nous, Jésus, c'est lui la vie, c'est la résurrection, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a rien à son épreuve. Son agenda n'est pas le nôtre. Il va faire des choses qui ont l'air complètement folles et qui vont aller contre toute apparence. Mais c'est Jésus. Et attendons-nous plutôt de voir sa gloire se réaliser à sa façon. Faire attention de ne pas le mettre dans notre agenda, mais nous, s'incruster dans le sien. C'est le premier acte. On se prépare. Deuxième acte. La disposition. C'est les versets 17 à 38. Imagine que Jésus arrive chez vous. Il arrive chez toi. Comment tu réagis? On est dans une drôle de situation présentement parce que on a envoyé quelqu'un chercher Jésus quelques jours avant que Lazare meure. Là, Lazare est mort et Jésus prend son temps. Il attend. Il arrive. Finalement, Lazare est mort. Les sœurs, comme toute la foule en général, ont cette réaction-là qui pourtant semble très légitime. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est un peu comme si on mettait Jésus dans une boîte. Ouais, tu as des pouvoirs spéciaux. Tu as l'air d'être un grand super-héros, mais là, il est un peu tard. Là. Il est mort. Il est trop tard. C'est... c'est de, comme Paul disait dans 1 Corinthiens 15, 26, il dit « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Et c'est comme s'il était toujours là, toujours présent. La grande faucheuse, comme disait François la semaine passée. Quand Jésus est là, on doit s'attendre à sortir de la boîte. Si on met notre Jésus dans une boîte et qu'on lui dit « Voici maintenant tes limites », ben on va manquer le meilleur. Par exemple, supposons qu'on a quelques milliers de personnes à nourrir. 5 à 8 000, là, ça dépend. Et qu'on a quelques pains et quelques poissons. Qu'est-ce qu'on fait? Des petits morceaux? Non. On va chercher un gros buffet? Non. Uber Eats? Non plus. On rend grâce et on les nourrit tous. Point. Et ça marche. Supposons qu'on est dans une noce, il n'y a plus de vin. Et là, les convives, les mariés, là, le party est fini parce que le vin a tout été bu. Ben, on va remplir les bouteilles avec de l'eau. Et voilà, du vin encore meilleur que celui du début. Ça, c'est sorti de la boîte. Ben, les Romains nous disent « Hey, faut payer les taxes, les amis! » Et là, tu as un Jésus qui parle avec Pierre et il dit « Qu'est-ce qu'on va faire? » Ben, il dit « Pêche un poisson, regarde dans sa gueule, ben là, il y a une pièce dedans, puis ça va être pour toi puis moi. » Ta façon, vous direz la boîte dans laquelle tu mets Jésus, va vraiment définir ta réaction, ta disposition. J'aime la réaction de Marthe. On parle de son cœur. C'est mon cœur, c'est ton cœur. Pas de reproche, hein, au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est ça, prier au nom de Jésus. Hein. C'est de proposer, mais on n'impose pas notre agenda, on n'impose pas nos solutions. « Seigneur, je te prie pour telle chose, mais voici le chemin que je veux que tu prennes. » Imaginez si Jésus avait guéri Lazare une semaine plus tôt. Mettons que, je ne sais pas moi, la personne qui est venue faire le message arrive, Lazare est malade, dit une seule parole et il sera guéri. C'est déjà arrivé avec un soldat romain. Hein? Et là, ben, il dit « Va, Lazare est guéri. » On aurait manqué le meilleur. On aurait manqué le meilleur. Jésus lui dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Wow! Quelle confession de foi on a là. Quand Jésus s'approche de moi ou quand je m'approche de Jésus, c'est un peu comme toc, 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 qui est là? C'est Jésus. Jésus qui? Hein? C'est qui Jésus pour toi? Est-ce que c'est comme ici la résurrection, la vie, le Christ, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, venu dans le monde pour souffrir et mourir lui-même pour toi? La disposition de ton cœur. Comment tu perçois Jésus? La boîte dans laquelle tu oses le mettre va définir vraiment tes attentes face au miracle et même ta perception de ce qui va se passer. J'aime aussi ce bout de passage-là, les versets 32 à 38, parce que non seulement on voit le cœur de Marthe, mais on voit aussi le cœur de Jésus. Et ça, c'est exceptionnel. On a une fenêtre sur le cœur de Dieu. Comment Dieu réagit? Comment Dieu réagit quand tu le pries? Comment Dieu réagit quand ça va mal dans ta vie? Comment Dieu réagit quand tu es heureux puis quand tu es triste? On a quelque chose d'impressionnant. Parce que souvent, on a cette impression que Dieu est indifférent à nos souffrances. J'entends souvent ça de la part de des personnes qui disent « Ah, mais Dieu s'en fout de ce que je vis. » Dieu n'est juste pas là. Non, Dieu est là. Il est parmi toi. Il vit des émotions fortes et puissantes. On le voit là dans le texte. On parle des expressions comme « il frémit en son esprit ». Et ça, c'est violent. Là. Quand on voit dans l'original, là, c'est un soupir violent, un profond frémissement. Je ne sais pas si tu as déjà frémi, là, mais c'est comme ça. Là. Il fut tout ému Une autre expression qu'on emploie, hein, on dit agité, bouleversé, troublé devant ce qu'il voyait, devant la tristesse des gens, devant un Lazare qui est mort et qui est. Pourtant, il sait très bien qu'il va le sortir du tombeau. Mais devant la misère humaine, Dieu n'est pas insensible. Hein, il a pleuré. C'est pas rien. Imaginez Dieu, quand même Jésus, c'est Dieu fait homme, là, qui pleure. Il a pleuré. Il a pleuré et les gens l'ont vu pleurer. C'était pas comme non, j'ai une poussière dans l'œil. Il a pleuré. Il a pleuré pour que les gens voient et disent wow, voyez comme il l'aimait. Oui. Oui, il a pleuré parce qu'il voyait l'ampleur du péché, mais il a pleuré aussi parce que Dieu est compassion. Le cœur du Seigneur, c'est la miséricorde. Quand tu t'approches de Jésus ou quand Jésus s'approche de toi, rappelle-toi que c'est lui qui intercède pour toi. Et quand il intercède, il y a des requêtes pour toi. C'est lui qui est assis à la droite du Père et qui prie pour nous. C'est lui qui comprend mieux que quiconque la profondeur et l'intensité de ce que tu vis. Hébreux 4, 15 dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » La façon dont tu vas disposer ton cœur va donner un sens au miracle qui va se passer. C'est clair. La boîte dans laquelle tu mets Jésus, les attributs que tu colles à Jésus vont définir les couleurs et la perception que tu vas avoir sur ce qui va se passer. La façon dont tu vois les larmes de Jésus va définir ton interprétation de ce qui se passe. Et la preuve, c'est que ce n'est pas tout le monde qui sont présents cette journée-là, qui vont croire en lui. C'est ce qui m'amène au troisième acte. On a un acte de préparation, de disposition. Et là, ben, c'est l'exposition. J'aurais pu dire l'explosion. C'est l'exposition. Jésus lui dit, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les cieux en haut et dit, il est en train de prier, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » J'aimais, en lisant sur ce passage-là, les commentateurs, Warren Worsby disait, « Si Jésus n'avait pas nommé Lazare, tous les morts du cimetière seraient sortis. » C'est la puissance de la parole de Dieu. Le troisième acte commence avec cette voix forte. La puissance de Dieu à travers deux mots. « Lazare sort. » Je dirais, laissons-nous pas nous distraire par le mort qui est en train de ressusciter. Quoique c'est très spectaculaire. Quand on lit le passage, ça donne même l'impression que bon, il y avait les pieds et les mains liés encore et un drap dans le visage. Il y en a qui pensent qu'il flottait même. Fait que bon, c'est dur d'être plus divin que ce miracle-là, là. Mais il y avait plus grand. Il y avait plus grand que ça. Tout ce que Jésus fait, il le fait pour sa gloire, pour la gloire du Père. Et il prie explicitement. On le voit là, verset 42, « Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » C'est le but, là, le but. Jésus n'avait aucun schéma de reconnaissance. Il n'avait pas besoin là, qu'on lui donne des beaux mots, des encouragements, des tapes dans le dos. Il savait exactement qui il était. Il connaissait exactement ses capacités illimitées. Il ne cherchait pas non plus à être adulé ou avoir un plus grand nombre de followers sur Instagram parce que là, deviendrait vraiment un influenceur. Là. Le but du miracle n'est pas là. La gloire de Dieu. La résurrection de Lazare, c'est un accessoire puissant pour amener les gens à glorifier Dieu. Le but de ce qui glorifie Dieu avec puissance, c'est d'amener ceux qui assistent à ce miracle-là à la foi en Jésus, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La semaine passée, j'ai entendu un miracle encore plus spectaculaire qu'un Lazare qui sort du tombeau. La semaine passée, après des années de témoignages, puis après des heures et des heures probablement de prière, j'ai la mère d'une amie qui a décidé de croire en Jésus, qui a donné sa vie à Jésus dans ses vieilles années. Quand j'ai écrit ça, j'étais bouleversé, j'étais ému, j'ai pleuré, parce que c'est ça le miracle. Le plus grand miracle pour Jésus, ce n'est pas de ramener un Lazare à la vie. Deux mots. Lazare sort. Jésus est tout puissant. Ce n'est pas ça qui a donné beaucoup de misère. Ça n'a pas été un effort, là, comme s'il y avait des pouvoirs, il fallait qu'elle cherchait ça là, dans dedans, là, avant de le faire sortir, moi. C'était simple, c'était facile. Mais voir une âme naître d'en haut, voir une âme faire confiance à Jésus, ça, c'est un miracle. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est le sens, c'est le but du miracle. Après ce miracle-là, il y a des conséquences. On voit les conséquences. Il y a deux camps, là. Je ne sais pas trop comment c'était la disposition. Il y avait du monde un peu partout. Mais chose est sûre, c'est que là, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui croient et qui ont entendu la voix de Jésus et qui ont dit « Wow! » Verset 45. « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. » Ils crurent en lui. Il y a le camp des croyants et le camp des mais. Verset 46, « Mais. » C'est whack, un « mais » là. « Mais. » Si tu veux de plus, « mais. » Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Même le plus glorieux des miracles n'a pas réussi à les convaincre que Dieu avait réellement envoyé Jésus. L'œuvre de Dieu dans le monde ne laissera jamais personne indifférent, tu peux être certain. Quand Dieu fait un miracle, ça divise, ça fait une tranchée. C'est comme Thomas le disait, quelqu'un doit mourir. C'est sa gloire ou notre gloire. C'est sa mort ou la nôtre. On ne peut pas être indifférent quand on entend la voix de Jésus. Mais on arrive à l'épilogue. Versets 49 à 57. Toute une histoire, hein? Toute une histoire. C'est pas parce que Dieu agit que tout va bien aller. C'est pas parce que tout va mal que Dieu n'agit pas. On commence à le comprendre. C'est à partir de ce grand miracle-là qu'on va décider de mettre la tête de Jésus à prix. On veut sa peau. Puis encore là, même là, on voit que l'agenda de Dieu n'est pas bouleversé, pas troublé. Il n'y a même pas une seconde de retard sur son agenda. On voit au verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa, parla au nom de Dieu, que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dieu est toujours en contrôle, même ici, il prend même le contrôle du méchant de l'histoire et il arrive à le faire contribuer au plan de Dieu pour que son plan s'accomplisse. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire-là aujourd'hui? L'histoire de Lazare, la résurrection, c'est un miracle puissant pour amener les gens à croire que Dieu a envoyé Jésus. Le but, ce n'était pas le miracle en soi. Ça, c'était un accessoire pour démontrer toute la puissance de Jésus. Fait que laissons-nous pas distraire par le miracle. mais plutôt allons à la source, à la gloire de Dieu, afin que les gens croient en lui, afin que les gens lui fassent confiance. Fait que pour toi, là, pour toi, à chaque fois que tu prends cette décision-là de faire confiance à Dieu, et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si déjà tu as déjà pris cette décision-là, chaque fois que tu décides de pardonner, chaque fois que tu décides d'aimer, chaque fois que tu décides de le laisser vivre à travers toi, tu es en train de devenir le miracle de Dieu à travers ta vie. Tu es en train d'avoir ce désir de vouloir exposer Jésus à travers toi. Et ça, en tant que tel, c'est un miroir. C'est un miracle. Si j'aime ce passage-là de 2 Corinthiens 3, 18, qui dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est le but ultime de nous laisser transformer à l'image de Jésus pour refléter sa gloire dans ce monde-là. Peut-être que ce matin, tu arrives à un point où tu dis « OK, j'ai vraiment envie de croire, lui donner ma vie, de sortir du tombeau, avoir cette vie éternelle-là. » On a, tout de suite après la célébration, un Zoom connexion, un espace connexion. Il y a un pasteur qui va t'attendre. On veut t'accompagner dans cette nouvelle vie que tu veux vivre. Peut-être que tu as besoin de parler avec quelqu'un. Peut-être que tu as besoin de prier avec quelqu'un. On t'attend tout de suite après la célébration. Parce que je peux te dire une chose, tu n'as pas besoin de voir Lazare ressuscité pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Chaque vie transformée, c'est un puissant miracle. Un puissant miracle qui expose la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'exposer notre vie. On veut, à travers cette histoire-là, voir que tu es vivant, ton agenda n'est pas le nôtre, et on veut surtout pas t'imposer une boîte dans laquelle on va te mettre. On a envie de te voir tel que tu es. Tout puissant, tout pouvoir t'a été donné. Tu es avec nous à chaque jour, jusqu'à ton retour, où on sera encore avec toi pour toute l'éternité. Toi qui as des émotions puissantes à travers ce que nous vivons, Seigneur, on veut surtout pas l'oublier et on veut, Seigneur, faire la différence dans notre monde. Oui, jusqu'au point où on va trancher entre ceux qui croient et ceux qui sont les mais, Jésus, on veut, on désire que tu nous utilises. Utilise-nous comme bon te semble pour ta gloire, Seigneur Jésus, et c'est dans ton beau nom que nous prions. Amen.